Cercavo la grande bellezza. Ma non l'ho trovata.
That's funny. That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor, d'étoiles plein les yeux. Cette semaine, la toile accueille The Danish Girl de Tom Hooper. Quant aux yeux, ceux de Marie et Baptiste, Joanne Thomien, ainsi que ceux d'Aurore, qui fait à cette occasion un retour triomphal coq éphémère sur les ondes de Transistor. The Danish Girl, donc. Einar est peintre, sans doute l'un des meilleurs au Danemark, entend-on. Et Einar est le mari de Gerda. Voilà qui pourrait résumer la situation au début du film, celle du bonheur simple d'un couple d'artistes. Et puis un jour, par jeu, Einar se déguise en femme. Il recommence, se fait appeler Lily. Sobriquet dérisoire, Lily grandit, prend de la place et se fait identité à part entière en Einar, qui prend peu à peu conscience qu'il est Lily, qu'il est une femme, sous l'incompréhension et la douleur de Gerda qui voit s'amenuiser d'autant le mari qu'elle aimait. Et Gerda peint Lily inlassablement, comme pour se rattacher à la peinture qu'Einar a petit à petit délaissée, tandis que germe en Lily l'idée de corriger sa nature, en faisant pratiquer ce qui sera la première chirurgie de réattribution sexuelle de l'histoire. Je m'arrête ici pour le résumé, et je laisse tout de suite la parole à Aurore, Marie et Baptiste, pour savoir ce que vous avez pensé de ce film.
Non, on laisse rentrer Clément.
Non, je n'aime pas donner mon avis en premier, c'est délicat.
Bon, alors moi je donnerai le mien, et je dirais que j'ai bien aimé, même s'il y aura des petits points à discuter plus tard, on est là pour ça justement.
Moi aussi j'ai bien aimé, enfin j'avais beaucoup envie de voir ce film et du coup je l'ai vu, je suis pas déçu mais je m'attendais presque à mieux mais j'ai beaucoup aimé quand même donc ça va.
Surtout qu'en plus t'avais lu le,
ouais,
le
j'ai
livre
lu le
avant.
Aussi.
Non, moi j'ai aimé aussi avec quelques points de détail qui m'ont un peu dérangé mais je suppose qu'on en parlera après.
Et toi Rémi?
Eh bien alors le reste va un petit peu casser ce que je dis, c'est pas un mauvais film. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même beaucoup de points qui mériteraient d'être un petit peu corrigés. Certains côtés très très caricaturaux qui mériteraient vraiment d'être amenuisés et lissés. Parce que le film sombre dans beaucoup de facilités qu'on retrouve dans énormément d'autres films. Ne serait-ce que dans les sentiments qu'il veut provoquer au spectateur. J'aime bien qu'on me donne mes larmes en kit, mais pas trop non plus.
Oui, surtout quand la musique est là pour...
Surtout quand les violons oui. N'arrêtent pas. Il y a des schémas très 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 classiques dont il serait bien de se défaire. Cela dit, c'est pas un mauvais moment à passer.
Parce que moi, ce qui m'a surtout plu, c'est la photographie et les plans que Hooper propose de Lily, de Copenhague surtout. Cette architecture absolument fabuleuse de la ville.
Oui, les couleurs et qui contrastent souvent avec un ciel qui est toujours gris, ou même simplement les paysages de la campagne. Danoise, enfin, j'ai qu'une envie là actuellement, c'est d'aller au Danemark par le premier avion. Mais c'est vrai que c'était quand même assez beau. Et même les plans de Paris, j'aime beaucoup l'art nouveau. Et c'était assez sympa d'avoir ces rampes d'escalier avec toutes ces volutes et tout. C'est agréable à retrouver dans un décor de film. Les textiles aussi. Il y a une attention particulière aux tissus, aux costumes, qui jouent un rôle aussi dans la conscience que prend Einar du fait que finalement il est peut-être une femme au début, ça commence quand il a une manière de toucher le satin qu'on aurait presque envie de toucher nous aussi. J'ai beaucoup aimé les costumes, ouais.
Oui, et puis cette lumière très cendrée quelque part, mais une lumière très particulière qui fait ressortir énormément tous les reliefs et qui, pour l'architecture, donne quelque chose de presque pictural du coup.
Après, comme il y a peut-être certains éléments que j'ai trouvé caricaturaux dans la vision qui est proposée de Paris, je me dis, si ça se trouve, on me séduit avec une belle image de Copenhague et en fait, un Danois serait complètement horrifié en disant « mais non, c'est n'importe quoi, mais bon ».
J'ai remarqué toute la symbolique derrière les plans et derrière la construction de l'image. Avec Lily toujours sur le côté, jamais de face, jamais au milieu de l'image, jamais centrée. Et c'est là qu'on comprend toute sa marginalité dès le début, même quand il n'y a pas encore Lily, quand Einar n'est pas encore Lily.
Justement, à propos de la marginalité du personnage, je me suis posé la question en sortant. C'est vrai que j'ai trouvé que ce film était un très joli portrait de femme, mais peut-être plutôt de Gerda, paradoxalement. Puisque comme Einar, Lily a parfois aussi des côtés comme personnage... un peu désagréable, un peu ingrat, qu'elle est toujours en retrait, qu'une manière de se tenir, comme tu disais, toujours une mèche qui couvre ses yeux. Il y avait une espèce d'inversion un peu genrée entre la femme qui devient un peu le personnage plus fort et très affirmé, surtout pour une femme de l'époque dans les années 20. Et à l'inverse, son mari qui s'efface délicatement dans une position de femme, avec peut-être des côtés un peu, petit peu caricaturaux au sens de légèrement sexiste. Alors, à quel point est-ce que ça vient de la biographie et du journal que le personnage a laissé, je ne sais pas. Mais il y a un peu ce côté, je veux devenir une vraie femme, donc être une vraie femme, c'est avoir un mari, c'est avoir des enfants, etc. Et il y a une espèce de...
Il y a une époque aussi.
Il y a une époque. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir un personnage un peu paradoxal comme ça, de pionnière, et qui en même temps est prisonnier d'un certain nombre de conceptions de son époque.
Mais pour ce que tu disais quant à Gerda, c'est vrai que c'est... en tant que personnage, je préfère... Je trouve que le personnage de Gerda est beaucoup plus réussi, finalement, que celui de Einar ou Lily. Ce qui est dommage autour de ce personnage, c'est que autant, comme tu le disais, Aurore, la symbolique autour de Lily est très intéressante, la construction des plans, autant toute la symbolique qui entoure Gerda est vraiment d'une lourdeur parfois assez terrifiante. On peut penser à cette scène à la fin du film où Lily dit qu'elle a fait un rêve et qu'elle était un bébé, et puis toute la figure maternelle de Gerda qu'on voyait bien depuis un moment, qu'on n'avait absolument pas besoin d'expliciter à ce point-là, et ce genre de symbole qui revient à plusieurs moments avec force violent, qui nuit au personnage, et je trouve que c'est dommage, parce qu'en effet, c'est un très très beau personnage, et l'actrice, donc Alicia Vikander, réussit à porter ce personnage de façon très très crédible dans à peu près toutes les scènes du film, alors que Eddie Redmayne, dans certains moments, colle pas trop avec son personnage.
Et sinon aussi, les acteurs, j'ai regardé quelques interviews, ils définissent le film plus comme une histoire d'amour, en fait, qu'une histoire de transformation ou tout un...
Oui. C'est très politiquement correct de définir ça simplement sur une histoire d'amour. Ça parle aussi de transidentité, oui. de changement de sexe. Bon, même si je ne sais pas si ça donne une bonne image de la transidentité, des transgenres, des transsexuels en général. J'ai trouvé ça très superficiel et je ne sais pas, je doute. Je ne sais pas. J'ai l'impression de douter de la personne d'Eddie, de l'acteur. Est-ce qu'il a bien incarné ou pas ce personnage, cette personne qui a vraiment existé, cette femme, pourquoi ne pas avoir simplement donné le rôle à une vraie transsexuelle, à une vraie femme qui a vraiment connu ces problématiques-là? Elles sont tellement effacées. Pourquoi?
Mais je sais pas. En plus, j'avais parlé de ça avec une amie qui est très proche du milieu transsexuel. Et elle m'avait fait la même réflexion, mais je lui avais dit que ça allait être dur, du coup, pour tourner les scènes du film, de passer de l'homme à la femme.
Ça,
je pense que... Le choix de l'acteur justifie. Enfin, pour moi, ça me choque pas qu'on ait choisi un homme pour incarner ce rôle-là, comme ça m'aurait pas choqué si on avait choisi une femme qui aurait pu avoir un physique masculin avec maquillage. Je pense que, c'est aussi tout le travail de l'acteur après de savoir incarner un personnage avec toutes les difficultés, toutes les contraintes qui sont liées à ce personnage et même des hommes qui incarnent carrément des femmes ou des femmes qui incarnent des hommes. Il y en a toujours eu au cinéma et au théâtre avant. Je pense pas que, moi, ça me gêne pas particulièrement.
C'est juste problématique du point de vue des représentations. C'est comme quand on fait jouer, une scène lesbienne à deux hétérosexuels. Je ne dirais pas avec le film, je fais référence. Mais c'est juste problématique du point de vue de la représentation. En fait, bien sûr qu'un acteur peut se travestir, mais c'est vrai que c'est...
Je suis d'accord avec toi, Marie. Ouais. C'est un problème. Ça a à voir avec la représentation au cinéma.
D'une certaine catégorie.
Oui.
D'une minorité sexuelle, en fait, simplement.
J'aimerais revenir sur ces clichés qui abondent dans ce film. Et quelque chose que je n'ai pas compris, je ne sais pas si dans les mémoires ou dans le roman ça existe, enfin, on en a parlé ou pas, mais cette idée qu'il n'y a que l'hétérosexualité qui puisse avoir lieu dans Lily, dans Einar, ou qu'il n'y ait qu'une légitimité à être hétérosexuel. Einar aime... Gerda, et puis Lily se détache de Gerda et veut trouver un mari, comme si Lily ne peut pas être amoureuse de Gerda, alors que...
Oui, c'est vrai que c'est... alors, on peut dire, comme tout à l'heure, que c'est un film de son époque, mais c'est aussi un film de notre époque, dans lequel on peut choisir de montrer un certain nombre de choses, et par rapport aux problématiques qui nous concernent, nous, au XXIe siècle. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu maladroit. On comprend pas, en fait, bien pourquoi est-ce que tout d'un coup... l'amour entre les deux serait impossible et pourquoi est-ce que ce qui contribue à rendre le personnage de Lily un peu désagréable parfois ce côté très détaché, un peu ingrat et un peu cruel aussi.
Ouais. Juste pour que vous sachiez aussi, dans la vraie vie, comment elle s'appelle, Gerda, elle a été très proche aussi du milieu lesbien et elle a notamment peint des scènes lesbiennes avec comme tu sais, sauf qu'elles ne sont pas du tout représentées dans le film pour cause de, je pense, de manque de temps ou de pas de volonté de montrer cette personnalité, mais du coup, je pense que ça joue aussi beaucoup, mais que le réalisateur a choisi de ne pas intégrer ces éléments dans son film. Justement, ça pourrait être critiquable. Ça. Donc, la question de l'amour est assez bizarrement abordée,
oui,
je trouve.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette scission complète entre la femme et l'homme, oui. La femme qui aime les hommes, l'homme qui aime les femmes. Et oui, c'est peut-être en ça que le personnage de Lily est un petit peu problématique. C'est ouais. qu'il fait une espèce de saut d'un extrême à l'autre, qui finalement revient à rester sur place. Enfin, c'est...
Oui, voilà. Et cette matérialisation dans le lit, quand ils sont séparés tous les deux par un immense voile. Oui.
Enfin, c'est une espèce de manichéisme.
Voilà,
de sexe,
c'est très... ouais, c'est ça, c'est très tranché, alors que c'est un film justement qui se voudrait plutôt...
alors que oui, quand on traite de ce sujet,
voilà,
c'est
voilà,
il
faut être un peu subtil et justement montrer qu'on n'est pas là pour catégoriser les gens dans un certain nombre de cases en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur genre. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de ce point de vue-là.
Et puis voilà, et puis en deux heures, je pense qu'on peut se permettre de oui. mettre un oui. tout petit peu plus de finesse, d'élaguer quelques longueurs et de remplacer ça par un travail oui. un petit peu plus profond sur les personnages, justement.
Cette idée d'être une vraie femme aussi, de la part de Lily, je veux un enfant, je veux avoir un enfant comme les vraies femmes.
Voilà, je peux pas être peintre parce qu'être peintre est femme, ce qui est le paradoxe absolu. Enfin,
oui, mais...
son épouse Gerda est une femme et peintre en même temps, et c'est absolument pas un problème. Et le paradoxe est légèrement pointé, mais on passe très vite dessus, finalement. C'est vrai qu'il y a tout ce côté voilà, sur un peu une féminité essentialisée, ce qui devrait être la féminité comme idéal à atteindre pour une transsexuelle. C'est un peu dommage de présenter ça comme ça aussi. Hein.
Mais c'est vrai que le film a une sorte d'atmosphère. On a posé un voile sur tout, il y a tout qui est doux. Il y a limite pas de problème. Enfin, il y a quelques gens...
Mais c'est exactement ça. Cette douceur imprègne même dans les moments de violence qui sont très rares.
Oui.
Ouais.
Enfin, c'est pas vraiment alors la douceur passe par les couleurs, mais c'est plus une forme de pudeur de part du réalisateur qui ne veut pas mettre de violence dans son film. Et comme d'habitude, finissons avec une rapide revue des films en salle cette semaine. Et on commence avec Anomalisa, qui a valu à Charlie Kaufman et Duke Johnson un grand prix du jury à Venise. C'est un dessin animé en stop-motion qui suit un personnage désabusé dans ses errances nocturnes au sein d'un grand hôtel. Il est spécialiste du service client, s'apprêtant à donner une conférence. Et la vacuité de ses occupations, le dégoût que lui inspire son travail, les regrets face à ses échecs affleurent dans ce monde lisse, fade, où il s'oubliera dans l'expérience brutale de l'amour. Le scénariste d'Eternal Sunshine on a Spotless Mind signe un film cynique et touchant qui secoue déjà le petit monde de la critique. Dans un tout autre registre, Tom McCarthy sort Spotlight, où l'on suit le nouveau rédacteur en chef du Boston Globe dans sa volonté d'élucider les affaires de pédophilie impliquant le clergé dans sa région. Le film raconte l'histoire vraie de Marty Baron, les pressions subies, les retournements de situation, les informations glanées une à une, la frénésie des salles de rédaction, le tout à un rythme effréné qui maintient le spectateur en haleine tout au long d'un film porté par des acteurs rivalisant d'aisance et de charisme, écrit Cécile Murray de Télérama. Enfin, ce vendredi 5 février, l'Institut Lumière projette Morocco de Joseph von Sternberg, le film qui a révélé Marlène Dietrich, racontant l'histoire de la chanteuse Amy Jolie qui embarque pour Mogador au Maroc. Elle se produit dans un cabaret travesti en homme et est courtisée par le richissime Labessière, par un légionnaire à la réputation sulfureuse. Film d'aventure et d'amour, mélodrame brûlant aux accents exotiques, le film multiplie les scènes d'anthologie et influencera de nombreux cinéastes. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Léo pour la technique et à bientôt sur Transistor.